Bonjour, je suis Thomas Bortolato. Vous écoutez la librairie des étudiants, une capsule auditive de Radio Campus Grenoble. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être aujourd'hui au rendez-vous de la librairie des étudiants. Je vous retrouve aujourd'hui pour un entretien. Je suis très heureux de retrouver notre auteur du jour avec qui j'avais ouvert la saison 2 de la librairie des étudiants. Je vais déjà vous parler d'archives de cette émission, mais notre auteur était venu nous livrer sa voix en juin 2023 lors de la dernière justement de cette saison numéro 2. Le revoilà aujourd'hui avec son nouveau roman, Sarabande X, publié en janvier 2025 aux éditions du Seuil. Bonjour Corentin Durand.
Bonjour.
Comment vous allez ?
Ça va très bien, merci.
Comment ça se passe, cette rentrée littéraire d'hiver avec ce nouveau livre ?
Bah, ça se passe très bien, en tout cas j'en ai l'impression. À partir du moment où il y avait eu un premier livre, on a, à votre exemple, on a rencontré un certain nombre de gens, et puis là on en rencontre d'autres, on en rencontre des nouveaux, il y a quelque chose toujours qui se produit de singulier à chaque livre. Le livre étant différent... Il s'est trouvé une autre famille presque, il y a quelque chose comme ça. Mais je suis très heureux de voir qu'il y en a qui a certains qui sont restés de l'un à l'autre et qu'il y a une forme de continuité. Ouais.
L'un à l'autre, on verra du coup pour le troisième.
Oui, c'est ça, on verra si. Oui.
Sans oui. Pression, on y reviendra. Sarabande X, c'est le roman d'une enquête à travers des décennies. Paul Bernard, qui est un journaliste de guerre pendant la guerre d'Indochine, et à son retour en France, il change pour un cinéma qui restera dans l'ombre quand ce n'est pas un certain type de cinéma, et nous y reviendrons. Aujourd'hui, Paul Bernard est mort et son fils Pierre est mis sur la voie par Véronica, qui doit en partie sa vie à Paul Bernard. Je me souviens que dans l'inclinaison, déjà, vos personnages ont des destins qui se croisent, qui se cherchent. On le retrouve aussi ici dans ce nouveau roman. Qu'est-ce qui vous fascine dans les destins qui se croisent ?
Pour commencer, Sarabande X, j'avais l'intention effectivement de parler de ce qui peut se produire dans une vie quand tout n'est pas donné d'office, quand les rêves des uns ne sont pas réalisés assez naturellement, et que pour des raisons parfois triviales et diverses, quelque chose du destin ne s'accomplit pas et reste la vie dans ses déceptions et dans ses bégaiements. Et il y a comme ça la possibilité de d'interpréter ensuite les grands mouvements d'une existence et ce qu'ils peuvent ensuite générer comme répercussions, plus ou moins souterrainement, dans la vie de ceux qui viennent après. Et donc typiquement dans Sarabande X, il y a effectivement un personnage qui est le protagoniste principal et qui vient donner un petit peu d'ordre à ce qui pourrait être sinon une sorte de bazar temporel, et qui est le fils d'un homme qui n'a pas réussi sa vie. Et le fils d'un homme qui n'a pas réussi sa vie doit, en un sens, restaurer peut-être quelque chose d'une continuité ou quelque chose d'une raison dans ce qui paraît sinon dispersé.
Alors justement, vous parlez de bazar temporel et vous faites voyager votre lecteur entre trois périodes différentes, les années 50, 70 et aujourd'hui. Qu'est-ce que cette construction narrative nous laisse avoir ?
C'est une forme que j'avais déjà plus ou moins déjà entrepris dans l'inclinaison, c'est-à-dire que je crois je sais pas si je crois, mais j'ai appris beaucoup de choses dans ma vie par des œuvres qui viennent du montage et qui proposent des entrechocs entre des périodes ou plus précisément des scènes différentes qui peuvent paraître éloignées dans le temps et l'espace, mais qui en fait réunies vont produire un certain nombre de signifiés. Et plus particulièrement là, dans ce qui est parfois presque lointainement une saga familiale, il y avait la possibilité, en la construisant ainsi, de provoquer également des correspondances du passé avec le présent et inversement, et puis parfois même du passé dans le passé, pour construire quelque chose comment dire, qui pourrait effectivement, oui, donner du signifié à certains événements qui paraissent sinon dispersés, de, comme je l'ai dit. Et il y a aussi la possibilité, selon moi, pour reprendre en partie la première question, c'est-à-dire que, comme c'est un roman aussi sur des destins, la facilité du romancier quand il s'agit de raconter un destin, c'est de psychologiser l'ensemble de la, comment dire, l'ensemble du développement du personnage en ayant toujours une bonne raison, en trouvant toujours des bonnes raisons pourquoi le personnage fait ceci, pourquoi le personnage fait cela, et en omettant en un certain sens, parfois un certain nombre de chaos qui provoquent la vie et ses basculements, et de fait de couper ainsi le roman et d'être beaucoup moins linéaire dans sa construction, ça permet aussi d'aller donner une direction, comment dire, de tenir ensemble des événements très, très différents, très contradictoires dans la vie d'une seule et même personne, sans avoir forcément à les expliquer, mais simplement, oui, à les tenir ensemble dans une même main, ce qui est parfois une des grandes difficultés de l'existence, c'est-à-dire de comprendre ce qui, d'un point à un autre, a pu changer. C'est parfois inaccessible, pour autant, on se doit... pour tout simplement regarder notre existence en face, d'avoir les deux en même temps, je ne sais pas comment dire, comme surimprimé.
Vous faites donc lier tous les éléments entre eux. Est-ce que votre roman, on peut le lire comme un film ? Parce que c'est la sensation que j'ai eue quand même. Entre tous ces passages, d'une scène à une autre, d'un chapitre à un autre, on est projeté dans des souvenirs.
Oui, en tout cas, ce qu'il y a de cinématographique, ce serait l'idée, effectivement, du montage. Comme s'il y avait, à un moment donné, dans le livre, le personnage, Pierre, découvre un certain nombre de masters et de bandes de vieux films qui sont comme échoués là, dans une cave. Et bon, il y a la possibilité de les parcourir. Et si jamais on parcourait des films, des bandes de films avant qu'ils ne soient montés, donc des rushs, il y aurait comme ça quelque chose de cet effet, un petit peu de dispersion, de cut un peu étrange, et de choses qui comment dire, ne s'enchaîneraient pas aussi comment dire.
Aussi facilement,
c'est ça, oui, il n'y a pas d'intention dans l'enchaînement, et donc il y a aussi cette image de bande retrouvée, ce existe aussi dans la présentation formelle du roman Sarabandix.
Avec Paul Bernard, donc l'un des personnages principaux, si ce n'est le personnage principal de votre roman, vous nous plongez à Saïgon, dans les années 50, dans les affres de la guerre. Comment ce sujet, il est venu à vous, dans l'écriture ?
En fait, j'ai commencé le livre par la biographie existante du personnage de Claude Bernard Aubert, donc réalisateur de films pornographiques et réalisateur de films politiques, qui avait précisément s'était engagé dans la guerre d'Indochine. Moi, j'avais une connaissance de la guerre d'Indochine à travers des études que j'avais faites, des études de vietnamien, et puis j'avais aussi, enfin, je sais pas, une culture littéraire de cette guerre-là. Et comme je souhaitais en fait parler du destin de cet homme-là, de l'homme réel, j'étais obligé d'en passer par là. Et comme un des grands sujets, comment dire, qui m'agitait alors, c'était la question de l'éthique de l'image et de ce que l'on peut filmer dans une guerre et ce que moralement il est acceptable de faire avant de basculer dans le spectaculaire. C'est avec plaisir, en un sens, que je me suis plongé là-dedans pour précisément mettre en scène un certain nombre de ces obsessions qui viennent ensuite aussi du cinéma américain, Cimino, Coppola. Bon, voilà. Et donc il y avait un plaisir de reparcourir aussi cette dimension-là.
Lorsque l'un des personnages apparaît aussi dans votre roman, on parle d'Angelo, dans les premiers chapitres où nous le voyons, il est sur le terrain de guerre entre la boue et les viscères, et là vous nous offrez quand même de très belles pages sur la guerre. On le voit aussi brûler des affaires. Est-ce qu'une partie de l'histoire de cette guerre est condamnée à l'oubli nécessairement ? Est-ce que vous vouliez aussi le rappeler entre les pages de votre roman, ou est-ce que c'était peut-être un détail que j'ai relevé qui était annexe ?
En fait, alors je ne sais pas si c'est pour sauver la guerre d'Indochine de l'oubli, mais c'est vrai qu'elle est relativement méconnue pour des tas de raisons. La place que prend la mémoire algérienne, la disposition même de cette guerre qui n'est pas une guerre d'appelée. Enfin, un certain nombre de détails historiques qui font effectivement que la guerre d'Indochine est assez mal connue. Puis elle est par ailleurs globalement éclipsée par la guerre américaine au Vietnam. Pour autant, c'est une guerre, je crois, assez importante. C'est la première guerre après la Seconde Guerre mondiale. C'est la première des guerres d'empire de la France. Et elle produit un certain nombre d'innovations militaires. Et notamment, elle ouvre le bal d'un certain nombre de guerres qui se répliqueront après, c'est-à-dire précisément la guerre américaine au Vietnam, mais également la guerre algérienne, c'est-à-dire le moment où la guerre devient quasiment une guerre civile et elle produit une absence de résolution claire, une absence de front qui produit aussi de la folie et une violence en chaîne.
Ce qui fait aussi que votre roman permet de mettre en lumière le déclin d'un empire, voire même des empires, à travers ces guerres qui vont suivre. Au rythme des concertos de Bach, qui ponctuent quand même vos chapitres, la guerre revient jusqu'à ce que Paul Bernard soit lui-même obligé de filmer l'impossible, filmer des corps, des meurtres. On ne le voit pas vraiment hésiter devant les horreurs des hommes, ce qui est assez glaçant. Ça n'est pas sans rappeler la photo prise des années plus tard, la petite fille au napalm de Nick Hutt. Alors là, justement, on parle d'une guerre qui est postérieure à celle qui prend place dans votre roman. Est-ce que la guerre s'efface trop vite au rythme des images ?
Disons que la question, c'est effectivement, comme je le disais, c'est de quand est-ce que la guerre devient spectaculaire et quand est-ce que, en un sens, l'image de guerre devient une image pornographique, à quel moment, c'est-à-dire le mouvement de la caméra ou de la photographie produit en fait le mouvement du désir de la violence. Et ça, c'est quelque chose qui est à l'origine aussi de mes recherches sur le roman. C'est-à-dire que je crois spécifiquement qu'il y a dans la mise en scène ou plus précisément dans le mouvement effectivement de prendre une photo ou de filmer une scène ou même d'écrire une scène, un mouvement de désir qui en fait n'est jamais que cousin ou du moins jumeau du passage à l'acte. Et dès lors, il s'agit aussi de savoir installer de la distance. Et dans le cas de la guerre d'Indochine, ce qui est historiquement exact, c'est que c'est une des premières guerres télévisées, télévisées au sens cinématographique, une des premières guerres filmées. Et de fait, il y a parfois une absence de recul à ce sujet, propre à la nouveauté de la technique.
Qu'est-ce qu'elles ont de pornographique, les images de guerre ? Vous nous parlez de désir de violence, qu'est-ce qui résout tout ça ?
Oui, en fait, je crois que il y a quelque chose de jumeau dans le passage à l'acte et dans le fait de filmer ou de photographier le passage à l'acte, quand bien même on en est soi-même entre guillemets innocent. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité en filmant des horreurs ou en mettant en scène parfois des horreurs, par exemple dans le cinéma de fiction, d'avoir une absence, on va dire, de distance. On voit qu'il y a des endroits desquels il est impossible de filmer correctement sans, en un sens, partager ou donner à voir du désir de la mort et de la violence. Désir bien connu qui a lui-même présidé au passage à l'acte des barbaries.
Alors, ce qui est quand même intéressant de voir dans votre roman, c'est comment l'image évolue au fil des chapitres, notamment lorsque un autre personnage apparaît, Wilfried. Il est décrit par Paul Bernard comme un homme qui sait façonner des images. Qu'est-ce que cela dit des images de temps de guerre ? Est-ce qu'il faut forcément se fier à ce qu'on nous rapporte ou pas ? Est-ce qu'il y a forcément une mise en scène des images de la guerre qui donne justement à voir cette forme de pornographie dont vous parlez ?
Disons que dans le cas du personnage de Wilfried, il représente effectivement le reporter de guerre américain qui, les Américains dans la guerre française en Indochine ont un rôle un peu particulier, c'est-à-dire ils ont un rôle assez particulier, c'est-à-dire qu'à la fois ils soutiennent la disparition du communisme dans la région, mais en même temps ils sont bien contents que les Français perdent une colonie et espèrent y trouver quelques relais après la guerre perdue par les Français. Donc sous couvert de lutte contre l'impérialisme dans le monde, les Américains vont un petit peu regarder cette guerre avec un peu de mépris et mettre en scène un certain nombre de choses, parce que leur presse et leurs médias sont légèrement plus avancés que les nôtres à ce moment-là. Et il y a comment dire, le, la naissance d'un certain nombre d'images qui ensuite deviendront un petit peu légion, c'est-à-dire, des mises en scène, je ne sais pas si on peut vraiment parler de mise en scène, parce qu'il y a parfois de la réalité, bien entendu, mais une manière de cadrer et de regarder le monde qui le fige dans un état presque mélodramatique permanent, dans le but effectivement de, comment dire, de satisfaire aussi l'ego des gens qui achètent les journaux et qui s'indignent assez facilement des mêmes journaux. Et donc qui représente effectivement cette espèce de tierce personne qui dans la guerre a le loisir finalement de regarder et d'embellir les choses pour s'indigner, mais d'une indignation qui finalement participe elle-même d'une absence de pensée.
Cette indignation, on la demande, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui?
Oui, plus que jamais. Enfin, je me demande si c'est même une question qu'on se pose encore, tellement ça fait partie de notre quotidien, c'est-à-dire l'annihilissement de toute possibilité de penser face aux images de guerre depuis qu'elles sont littéralement télévisées en direct, c'est-à-dire la guerre en Irak, quoi.
Paul Bernard reste hanté par la mort, et j'aimerais vous faire lire un poème auquel vous faites référence dans votre roman, qui est un poème de Charles Baudelaire. Parce qu'en fait, ce qu'il faut aussi expliquer derrière tout ça, c'est que Paul Bernard, on le retrouve au crépuscule de sa vie, chez lui, entouré d'une immense bibliothèque. Je ne sais pas si c'est inspiré de vous aussi, si vous avez chez vous peut-être une immense bibliothèque dans laquelle...
J'aimerais.
Peut-être un jour, on vous le souhaite en tout cas. Et donc Paul Bernard, au crépuscule de sa vie, il passe son temps à relire des passages, à chercher une vérité, peut-être une vérité existentielle, et il passe son temps à surligner des passages. Et à un moment donné, il surligne un passage chez Baudelaire, qui est donc extrait du poème « La mort des pauvres ». Est-ce que vous voulez bien nous le lire ?
« La mort des pauvres. C'est la mort qui console, hélas, et qui fait vivre. C'est le but de la vie et c'est le seul espoir. Qui, comme un élixir, nous monte et nous enivre et nous donne le cœur de marcher jusqu'au soir. À travers la tempête et la neige et le givre, c'est la clarté vibrante à notre horizon noir. C'est l'auberge fameuse inscrite sur le livre et l'on pourra manger et dormir et s'asseoir. »
La mort qui est un espoir pour faire vivre. Quel espoir est-elle, la mort ? Plus largement, en dehors de Paul Bernard, bien sûr. Mais on peut aussi donner une réponse au Paul Bernard.
Disons que dans le cas de Paul Bernard, je crois que il y a quelque chose comme ça d'assez lacanien dans le rapport à la mort, c'est-à-dire que la mort, produisant le néant, elle produit aussi la raison et le... Comment dire ? La mort produit en fait la vérité de la vie en l'arrêtant. C'est-à-dire que les choses qui ont une fin ont forcément un sens. Et dans le cas de Paul Bernard, qui cherche précisément le sens de sa vie et les raisons de ses échecs et de ses bégaiements, la mort peut proposer en fait une fin qui consolide en un sens ce qui sinon semble divisé. Et il y a aussi plus simplement le grand âge et la manière dont on regarde l'au-delà à partir du moment où celui-là est un voisin certain. Et je crois que c'est le cas de Paul Bernard. Plus généralement, sur la mort, je sais pas. Je crois que c'est beaucoup plus facile de penser à travers ces personnages que d'avoir sinon une opinion plus générale.
J'ai surtout le sentiment, en vous ayant lu, et là je vais confronter mon point de vue de lecteur à celui de l'écrivain, Paul Bernard, j'ai surtout l'impression qu'avec tous ses échecs, en partie, dans sa vie, la mort est plutôt une libération pour lui. Est-ce que ce point de vue de lecteur vous convient ou pas ? Et qu'il l'attend justement, et qu'il cherche des clés dans ses livres ?
Oui, je sais pas si on peut parler de libération, mais effectivement, il y a effectivement la possibilité dans ce néant de trouver un répit à l'existence et à ce que la liberté dans l'existence a produit comme incohérence et comme sorte de culpabilité. Après, je ne me représente pas, au-delà des souffrances physiques, le Paul Bernard de la fin de sa vie, c'est-à-dire le père de Pierre, comme un homme exclusivement souffrant et mélancolique. C'est aussi, je crois, un homme qui aime sa famille et qui aime son fils et qui se demande comment les aimer mieux. Voilà, c'est tout cela en même temps.
Alors, il y a la mort à la fois pour Paul Bernard qui est en fin de vie, mais aussi la mort par la guerre, on en a parlé. La mort qui surgit avec fracas au rythme de vos lignes. Et des fois, je vous avoue, il y a eu un passage qui m'a quand même énormément surpris. Dans les bois, à la recherche d'un endroit, et il dit « on ne s'arrête pas dans le ravin de la mort ». Il vient d'abattre quelqu'un qui a marché sur une mine. Comment peut-on être cinéaste après avoir vu et après avoir entendu de telles horreurs dans la guerre ?
En fait, ce passage appartient... au premier film de Claude Bernard Aubert qui existe vraiment, qui s'appelle Patrouille de choc. Et il y a effectivement le film tourne autour de la visite d'un village témoin qui vient d'être attaqué et rasé par les Viet Minh. Et dans mon cas, je voulais donc revisiter en un sens cet événement biographique de Claude Bernard Aubert dont il a lui-même fait un film, et le tenir aussi, je ne sais pas si c'est à distance, mais en tout cas le représenter aussi dans l'esprit et la volonté d'un homme souffrant de son intelligence, c'est-à-dire ce personnage d'officier qui est à la fois effectivement extrêmement intelligent et qui mesure ce que l'intelligence ne peut plus faire ou ne peut plus prévenir quand le monde se dérègle à ce point et que toutes choses étant été défaites, il y a quelque chose, oui, de l'esprit et de la raison qui n'est plus nécessaire ou en tout cas qui n'est plus en mesure de sauver le monde tel qu'on le connaît, et donc qui se dérègle infiniment jusqu'à une sorte d'apocalypse personnelle.
Est-ce que c'est aussi pour ça qu'à la fin, Paul Bernard souhaite se raccrocher à des esquisses de phrases dans ses livres pour régler ce qu'il a pensé ?
C'est-à-dire que Paul Bernard appartient aussi à une génération dont les principes esthétiques tiennent de la postmodernité, et donc il y a quelque chose il croit, je veux dire à mon instar, que le montage et le fait de tenir des phrases, des choses assez éloignées peut produire un autre sens que le sens seul de la syntaxe. Et ça, c'est aussi un trait de caractère que j'ai donné à Paul Bernard en le prenant à Jean-Luc Godard.
On y reviendra, Jean-Luc Godard. J'ai quelques questions à vous poser là-dessus, justement. Dans une très belle lettre à son fils, Paul Bernard parle d'un livre à brûler. Qu'est-ce que c'est, un livre à brûler ?
En fait, c'est une sorte de blague. Enfin, c'est pas vraiment une blague.
C'est une blague à l'auteur, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est une référence aux travaux sur la Chine de Jean-François Bilter. Jean-François Bilter est un sinologue suisse qui s'est beaucoup intéressé à un auteur chinois qui s'appelle Li Ji. Et cet auteur chinois est un mandarin qui a quitté sa charge et qui a écrit effectivement un livre à brûler. Et il y a une sorte de contresens, parce que longtemps on a cru que ce livre à brûler était une sorte de livre polémique sur les Ming. Et en fait, c'est un livre, très spirituel sur le fait d'aimer la vie et de défendre les arts.
Quel est le vôtre de livre à brûler ? En parlant de spiritualité, de défense des arts, est-ce qu'il y en a un chez vous, particulièrement ?
Disons que plus précisément, ce qui m'intéresse, c'est le quiproquo. C'est-à-dire, il y a quelque chose, je crois, et ça c'est un trait de caractère que j'ai donné à Paul Bernard, il y a quelque chose, parfois on a effectivement l'impression que les grands gestes artistiques sont les gestes qui sont presque de nature à être précisément brûlés, à être interdits. Mmh. Et j'aime ce quiproquo, c'est-à-dire que dans le livre... Paul Bernard fait donc ce film à brûler, en un sens qui serait La Légion des Honneurs, c'est-à-dire oui. un film d'une noirceur et d'une d'une nature politique presque, qui se confrontera à la censure tant il y a quelque chose dedans d'incendiaire. Et pour autant, la vie lui montrera peut-être qu'il y a aussi une ironie dans cela, une forme de quiproquo. C'est-à-dire qu'on peut aussi se libérer de cette question du livre à brûler parce qu'il y a quelque chose peut-être de plus incendiaire ou de plus qui propose une plus grande transformation du monde et qui pourrait être parfois autre chose, une autre forme d'être au monde que simplement le rejet.
Alors justement, vous parlez de La Légion des Honneurs, ce fameux, l'un des films que va faire Paul Bernard mais qui ne rencontrera pas de succès. L'histoire d'un homme qui ne réussit pas, ça vous intéresse littérairement parlant ?
Disons que je ne connais pas d'autres sujets en fait. Je crois qu'il y a presque, on verra par la suite, mais pour le moment il n'y a que ça qui m'intéresse.
Qu'est-ce qui est fascinant dans ce destin raté ? Est-ce que c'est une forme d'admiration ? et peut-être en ayant après vu, alors là je parle de la vraie vie de ceux qui n'ont pas réussi leur destin, peut-être qu'on découvre après par hasard qu'en fait il y avait du talent, ou est-ce qu'il y a une forme d'indifférence, c'est juste une passion?
Non, il n'y a pas d'indifférence. Je pense qu'il y a deux sujets. Le premier, c'est le rôle que je crois être possible des romans, c'est-à-dire effectivement de tenir la chronique de vie qui n'ont pas été, dont la chronique n'a pas été tenue, tout simplement. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis, il y a aussi une manière ainsi d'explorer la manière dont le monde et le temps... donne et reprend l'amour, la gloire, le succès, la compréhension, ce qu'il y a de fondamentalement quiproquo et qui, pour autant, ne cesse d'être rationalisé par nous et nos sociétés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'empêcher de croire que ces choses-là ont un sens, que le succès a un sens, que le trouver l'amour a un sens, que ce qui nous est donné dans la vie a une bonne raison, alors qu'en fait il n'y a aucune raison et c'est comme ça. Et on va dire que ce sujet, je le trouve assez infini et vertigineux.
On parle de film avec Paul Bernard. Quelle différence vous faites, vous, Corentin Durand, entre voir et filmer ?
Bien, disons que dans le cadre de Paul Bernard et de ce roman, il y a quelque chose dans ce qui est visible et dans ce qui est vu de presque tributaire du moment, de l'heure qu'il est et de là où on est, alors que dans le filmé, il y a évidemment quelque chose d'un désir manifeste. C'est-à-dire que c'est un petit peu Diane et Actéon. C'est-à-dire que quand on choisit de voir Diane, on est en train de filmer. Dans d'autres cas, on va dire que le regard on en est davantage tributaire et les choses nous sont données sans qu'elles aient été demandées. Je crois que filmer, c'est demander en un sens.
Filmer, en tout cas, ça peut être aussi parfois produire un récit différent de la réalité, bien qu'il s'en inspire. Vous décrivez que Pierre découvre des photos, des nouveaux films de son père une fois qu'il est rentré. Vous nous plongez aussi sur un tournage avec Paul Bernard à un moment donné dans le roman. Vous voulez nous montrer un monde. Est-il aussi faux que les cinémas ou est-ce qu'il est bien réel ?
C'est-à-dire que quand on est sur le plateau d'un film dans le livre, c'est le plateau d'un film érotique dans lequel deux personnes, Paul Bernard et Véronica, qui ont été amoureux l'un de l'autre par le passé et n'ont plus la possibilité de l'être dans la vie réelle, retrouvent la possibilité d'être aimés l'un par l'autre. Grâce à l'interaction, on va dire, du média, par la forme, par la poésie, quand bien même elle serait triviale, du plateau de cinéma. Et donc il y a quelque chose comme ça dans le fait de jouer l'amour qui contient une ambiguïté propre, c'est-à-dire à la fois on s'aime véritablement et en même temps on est tenu à distance par ce qu'on croit être de la fiction, mais qui parfois est mieux que la vie et sauve la vie.
Vous parlez de retrouvailles amoureuses, et c'est vrai, dans votre roman quelques années plus tard, mais qu'ils ne le peuvent plus. Est-ce que, à travers les arts, filmer, écrire, chanter, et même plus largement, je vais peut-être aller vers vous, est-ce que écrire, pour vous, c'est garder prisonnier ce qui vous échappe ?
Oui, absolument. Absolument. Sarah Bandix procède de ça, c'est-à-dire que il y a les choses qu'on s'est dites jusque-là, c'est-à-dire oui, l'intérêt pour la guerre d'Indochine, la question du destin brisé, et puis plus largement, il y a la question effectivement du destin brisé par l'amour qui n'est pas donné. Ça, c'était presque le. Oui, c'est presque la motivation. Le reste, c'est plus des points d'étape. Mmh. Et dans le. Quand on est confronté à des échecs comme ça, échec c'est une parole étrange, mais quand on est confronté effectivement à des choses qui ne nous sont pas données, alors qu'elles semblaient nous donner un sens à notre vie, soit on accepte en un sens que la vie n'a pas de sens et on en souffre, ou je ne sais pas trop d'ailleurs ce qu'on en fait. Moi je sais que j'ai besoin effectivement de faire une forme et de produire par l'écriture effectivement quelque chose de la retenue ou en tout cas de la parfois même de la création de ce qui n'a pas été. Il y a quelque chose comme ça de Orphée Eurydice quoi. On tient par la fiction un monde qui n'a pas été mais qu'on a tellement désiré qu'on a besoin qu'il existe d'une manière ou d'une autre.
Les gens portent un regard sur des œuvres, que ce soit pour un écrivain, un peintre, un chanteur. On entend parfois que les œuvres, c'est une façon pour les artistes de se mettre à nu. Est-ce qu'écrire, c'est pour vous, votre façon de vous mettre à nu ?
Je suis pas sûr. Je pense que c'est un mode de communication beaucoup plus complet que le reste des modes de communication, que j'ai la possibilité ainsi d'exprimer quelque chose qui, de toute façon, dans la vie en général, du fait de ma timidité, de bien des choses, je suis absolument incapable d'exprimer. Après, est-ce que ça me met à nu pour autant ? Je suis pas sûr. Je pense que c'est un peu différent quand même, parce que c'est aussi assez loin de moi, d'une certaine manière. Il y a quelque chose qui, par la forme, produit une certaine distance et qui fait qu'un livre que j'ai écrit moi pourrait aussi peut donner l'impression d'être aussi écrit par quelqu'un d'autre. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça.
Donc il n'y a pas un peu de vous quelque part entre vos lignes ?
Bah, si, complètement. Si, non, mais bien sûr. Si,
de manière tellement
absolument.
Sporadique qu'on n'arrive pas à vous retrouver.
Non, pas de manière sporadique, au demeurant de manière totale. Mais je sais pas comment dire ça, mais le roman produit une forme, enfin en tout cas j'espère, produit un monde qui est régi par ses propres règles et qui de fait qu'on pourrait imaginer que tout cela a existé, que ces gens existent, qu'ils nous accompagnent, qu'on vit avec eux. Et dès lors, si cette illusion est vraisemblable, cela a beau être des histoires qui me sont proches et des événements qui ont été vécus par moi, c'est plus exactement les miens. Et ça, oui, ça vit ailleurs, quoi, en un sens.
Vous soulevez un point qui m'intéresse énormément avec les auteurs. Vous dites que les personnages ils peuvent nous côtoyer, nous habiter. Qu'est-ce qui reste en vous, là, aujourd'hui, du bleu, de l'inclinaison ? Qu'est-ce qui reste de Paul Bernard, même si c'est un roman qui vient de sortir ? Qu'est-ce qui reste d'eux ? Est-ce qu'ils vous habitent encore ? Ou est-ce qu'ils sont déjà loin, maintenant que le roman est publié ?
Ça, c'est une bonne question. À vrai dire, c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire que on va dire qu'il y a une zone de la conscience dans laquelle on croit que tout ça est fini derrière nous. Ça, c'est certain. On a parfois même un léger mépris, c'est-à-dire que des choses qui nous intéressaient au moment de l'écriture et dans le fait de côtoyer ces personnages, comme ça on se crée une vie à deux aussi avec les personnages, et donc il y a quelque chose comme ça qui semble lointain, effacé, et puis pour autant de temps à autre la vie produit des signifiants et on se surprend à avoir des fantômes de cela, pour X ou Y raison. Moi souvent, enfin, j'ai ce truc, j'habite à Paris, je prends le métro. Et dans le métro, j'ai parfois l'impression de croiser des gens comme ça, de mon passé et en un sens de mes livres passés.
On en a parlé de Jean-Luc Godard et vous ouvrez votre roman avec une citation de lui, « Histoire de la solitude, solitude de l'histoire », extrait d'Histoire du cinéma, histoire au pluriel. Qu'est-ce qui vous a inspiré, Jean-Luc Godard ? Qu'est-ce qui vous inspire même tous les jours ?
En fait, moi, j'ai trouvé Jean-Luc Godard à un moment précis, c'est-à-dire au début de l'écriture, même un peu avant l'écriture de Sarah Bandix. Il y avait la rétrospective à la Cinémathèque française à Paris, donc j'ai beaucoup fréquenté cette rétrospective. Et puis ultérieurement, en fait, après la rétrospective, il y a eu le confinement. Et je me suis retrouvé donc seul chez moi avec la nécessité, en tout cas l'envie de voir des films, l'impossibilité de les voir au cinéma. Et donc je me suis attaqué à la grande œuvre de Jean-Luc Godard, qui sont les histoires du cinéma, qui sont des films pour la télévision qui abordent par le montage presque un siècle d'histoire du cinéma et qui produisent un discours à la fois sur le cinéma, sur le monde, sur le voir, le visible. Enfin, il y a presque absolument tout là-dedans.
C'est presque finalement la clé pour lire votre roman, en fait.
C'est possible.
En tout cas, de ce que vous me dites, il vous a beaucoup inspiré.
Oui, parce qu'en fait, à ce moment-là, j'étais moi-même confronté à des questions intellectuelles qui étaient relativement, enfin, je ne sais pas si c'est insoluble, mais il y avait quelque chose comme ça, d'une mélancolie chez moi qui contaminait un peu tout. Et les histoires du cinéma, c'est aussi un moment où Jean-Luc Godard parvient d'une manière bien à lui, comment dire, survivre et surtout retrouver le goût de la création dans la mélancolie et la tristesse que peut produire le monde qui nous entoure. Et donc il y a quelque chose d'un compagnonnage, je crois que ça fait quasiment 6 heures, hein, les histoires du cinéma, d'un compagnonnage intellectuel dans lequel on se développe et on retrouve des clés effectivement intellectuelles et formelles.
du cinéma à la littérature, il y a presque un seul pas à faire, passer du cinéma à la librairie. De mémoire, vous m'aviez parlé de Yukio Mishima, Les Confessions d'un masque. Quel est aujourd'hui le livre que vous lisez ?
En ce moment, je lis la saga de Amélie de Bourbon-Parme sur le pape Paul III, si je ne me trompe pas. En fait, c'est l'ascension d'Alessandro Farnèse. Voilà.
Sarabande X, le deuxième roman de Corentin Durand, paru aux éditions du Seuil. C'est une lecture en travelling sur des destins à retrouver en librairie indépendante. Merci Corentin Durand.
Merci à vous.
Je suppose que vous allez prendre un peu des vacances là pour écrire le troisième roman.
Oui.
Bon, en tout cas, nous, on sera au rendez-vous pour le prochain. Amis auditeurs et auditrices, je vous donne bien sûr rendez-vous dès mercredi pour reprendre le fil de nos chroniques littéraires. La capsule auditive de l'entretien du jour avec Corentin Durand est à retrouver en balado-diffusion sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8 à la rubrique de la librairie des étudiants. Je vous souhaite le plus important et le meilleur, comme toujours, d'avoir de belles lectures.